Alors, j'aimerais pour vous dire, je vais rester sur, ça fait déjà quelques temps que je prêche sur le fait de vivre en communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne m'a pas laissé mettre cela de côté, donc on va revenir sur le sujet. Ma question est, que se passe-t-il quand tu es au bon endroit, à la bonne heure, avec les bonnes personnes ? Imagine que toute l'église de Jésus-Christ soit au bon endroit, à la bonne heure, avec les bonnes personnes. Tu sais, il y a un chant que l'on chante et qui dit « Un jour, la connaissance de l'Éternel remplira toute la terre ». Tu sais, ce jour-là, chacun sera au bon endroit, à la bonne heure, avec les bonnes personnes. Parce que c'est ce qui se passe. Quand on est au bon endroit, à la bonne heure, avec les bonnes personnes, la volonté de Dieu, eh bien, prend une autre dimension, beaucoup plus importante que celle qu'elle a dans notre vie. Quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'un ange a dit à l'évangéliste Philippe de quitter la Samarie et de se rendre dans le désert. On sait ce qui s'est passé dans le désert. Il a expliqué les Écritures à l'eunuque de la reine d'Éthiopie et il a été aussi baptisé d'eau en même temps. La Bible nous dit qu'Ananias a vu en vision qu'il devait aller à la rencontre de celui qui s'appelait Saul à l'époque, Paul. Et puis dans une vision, l'apôtre Pierre a compris que l'évangile était aussi pour les non-juifs. Plus tard, Paul a eu en vision qu'il devait se rendre à Jérusalem. Et dans la vie de tous les jours, ça n'est pas ainsi que ça se passe. Dans la manière normale de que Dieu utilise pour nous parler, ce n'est pas les rêves, les visions et les visitations angéliques. Ça n'est pas cela. Dieu a une autre manière de parler. C'est exactement comme, pour vous donner un petit peu la comparaison, pour ceux qui cuisinent et qui sont très précis dans le timing, quelquefois 5 minutes de plus de cuisson à 200 degrés, ça veut dire que ton plat il passe à la poubelle. Donc parfois, qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise une petite sonnerie, une alarme, un espèce de petit rond là que l'on place et puis on règle le temps. Bon, exactement dans 30 minutes, eh bien, mon plat à cette température, il est cuit. Dans le bon sens. Donc on met cela, mais imaginez qu'au lieu de mettre cette petite sonnerie qui suffit, elle suffit celle-là. Hein? Vu peut-être la taille de la maison, ça suffit, on sait qu'on va l'entendre. Imaginez qu'à la place de cela, quelqu'un mette l'alarme de la maison. Et dans 30 minutes, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une maison où il y en a une alarme qui sonne, mais c'est l'horreur. On a envie de se boucher les oreilles. Et où que tu ailles dans la maison, cette alarme, elle va être extrêmement forte. Eh bien, quelquefois, les chrétiens veulent que Dieu leur parle de cette manière-là. Quand Dieu rend visite à quelqu'un pour lui donner un message particulier et qu'il va utiliser des rêves, des visions ou envoyer des messagers, des anges, alors c'est exactement comme s'il cherchait tellement à avoir l'attention des gens qu'il faisait résonner l'alarme dans une maison pour lui dire dans 30 minutes, ton repas est prêt. Alors, la question est, comment est-ce que Dieu parle ? Tu sais, Dieu parle, mais Dieu ne parle pas qu'à ceux qui lui ont déjà donné leur cœur. Dieu parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne sur cette terre qui pourra, quand il se tiendra devant Dieu, qui pourra dire « Dieu, je ne savais pas que tu existais ». D'abord, la Bible nous dit que quand on regarde la création, on lève les yeux, on voit les étoiles, quand on observe les fleurs, on observe les animaux. La Bible nous dit que la création nous révèle l'existence de Dieu parce que la création est en ordre. Et la création a une beauté que l'être humain n'aurait jamais pu créer. Ne serait-ce que déjà dans le désert, on pourrait dire dans le désert, des rochers, du sable. Non. Il y a une telle beauté dans le désert. Vous avez déjà vu le soleil se coucher dans le désert et les couleurs qui changent. La Bible nous dit que la création révèle l'existence de Dieu. Donc aucun être humain, tu dis oui mais tu sais si il y a quelqu'un qui est aveugle, qui est sourd, alors il y a une chose que Dieu fait, Dieu parle à chaque être humain. Il nous est dit que Dieu a laissé dans le cœur de l'être humain la pensée de Dieu et la pensée de l'éternité. Tu sais, un chrétien, évidemment que Dieu va lui parler, mais quelqu'un qui n'est pas chrétien, Dieu va lui parler. Par exemple, on se rappelle Adam et Ève. Eh bien, ils marchaient dans la fraîcheur du soir dans le jardin d'Éden. Et ils marchaient avec Dieu, et ils parlaient avec Dieu, comme ils parlaient à leur père, comme ils parlaient à leur meilleur ami. Mais la Bible nous dit, un jour, ils ont voulu faire leur vie sans Dieu. Quand ils ont fait leur vie sans Dieu, eh bien, la nature de l'ennemi de Dieu est venue dans leur cœur. Et cette nature a fait de Dieu d'eux un pécheur. Mais quand ils ont été séparés de Dieu, tu sais que Dieu leur a quand même parlé. Dieu leur a parlé. C'est-à-dire qu'il leur a dit, bon ben voilà, toi maintenant, toi l'homme, parce que tu as péché, voilà les conséquences. Toi la femme, voilà les conséquences. Et toi le serpent, voilà les conséquences. Donc Dieu parle à tout le monde. Vous rappelez Cyrus, celui qui a été mis à part par Dieu pour libérer le peuple d'Israël de Babylone et l'aider et l'encourager à reconstruire les murailles de Jérusalem. Ça n'était pas un chrétien. Ça n'était pas un chrétien. Dieu parle à tout le monde. Hier, j'étais en train de... J'aime bien regarder les informations où quelquefois, pas quelquefois, souvent je le regarde. Comment s'appelle cette série sur M6, là, avec les trois couples ? Scène de ménage. Et je trouve ça marrant parce que je trouve que ça représente tellement les couples à différentes époques. Bon, quelquefois, c'est plus ou moins bien, mais enfin bref, il y a des trucs qui sont vraiment marrants. Et hier, j'avais regardé ça et je me dis, tiens, je vais regarder un truc juste histoire avant de partir me coucher. Et il y avait une émission, première fois que je le vois, qui avait une... Enfin, je ne l'ai même pas regardé en entier, à vrai dire. Mais il y avait cet homme-là qui est un prestidigitateur et qui a une grande admiration pour Houdini. Houdini qui a été quelqu'un d'extraordinaire, un prestidigitateur remarquable. Il arrivait à se sortir de toutes les situations. Et celui-ci, eh bien, voulait en quelque sorte arriver à la hauteur de Houdini qui est déjà mort. Et il s'est fait enfermer dans une boîte en verre. C'est-à-dire les parois étaient constituées de verre, ça ressemblait à un cercueil. Hein, en verre. Et il était bien ligoté, la boîte était bien cadenassée, et il disait l'idée, donc il s'est fait creuser comme une tombe, et il s'est fait placer à l'intérieur de cette boîte, et il a été déposé dans la tombe. Et l'idée, non mais attendez, franchement, l'idée c'était de se faire, qui l'a vu ça ? L'idée c'était de se faire déverser dessus, hein, donc sur la boîte, du ciment frais. Donc, il envoyait la bétonneuse, clac, 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 qui envoyait du ciment. Et ce qu'il n'avait pas pensé, c'est que la pression du ciment allait faire éclater la boîte. Bon, bref, le gars, il est resté 22 minutes coincé dans le ciment. Il a failli ne pas en ressortir vivant. Et tu sais, il y avait quelque chose qui m'a intéressé. Non, franchement, hein. Il y en a qui se la cherchent, comment dire. Et il y avait un des organisateurs qui était là pour l'encadrer. Et c'est quelqu'un, il était effaré par ce qui s'était passé. Et la raison pour laquelle il était sonné, c'est parce qu'il n'arrêtait pas de dire « je le savais, je le savais, je savais qu'il ne fallait pas, qu'il fallait qu'il ne le fasse pas. J'étais sûr qu'il ne devait pas le faire. » Qui déjà a eu cette réaction de dire après quelque chose qui se passe, je savais que je ne devais pas le faire. Non, non, levez les mains, allez, allez, allez. Hein, voilà. Et il y en a qui mentent ici ou là, 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 là. Mais bien sûr, ça nous est tous arrivé. On le savait. Et la question, et alors, pourquoi l'as-tu fait? Et alors, pourquoi l'as-tu dit? Tu sais, cette parole de trop qui fait basculer la conversation dans la Troisième Guerre mondiale. Mais là, c'était quelqu'un. Pas né de nouveau, il n'a jamais mentionné le nom de Dieu, parce que normalement, quelqu'un qui le dit aurait connaît le langage, il aurait dit « Dieu m'a dit ». Et il disait « Je savais qu'on n'aurait jamais dû verser ce ciment-là sur cette boîte en verre, je le savais ». Bon. Alors, Dieu ne lui a pas envoyé un ange. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu lui a parlé dans son cœur. La manière la plus courante pour Dieu de nous dire quelque chose, c'est en nous parlant dans le cœur. On va regarder quelques versets ensemble. Regardez avec moi dans Jean chapitre 16, à partir du verset 13. Il nous est dit quand le Consolateur sera venu. On sait que la condition pour que le Consolateur, l'Esprit de Dieu, vienne, pas simplement sur certaines personnes, mais sur tous ceux qui sont nés de nouveau, eh bien, c'était que Jésus parte, remonte au ciel. Non, j'ai envie de dire plutôt reparte au ciel. Quand quelqu'un sur cette terre décède, en Christ, il repart. J'ai pas dit il part, j'ai dit il repart vers le Père. Il nous est dit quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Tu sais que pour accomplir la destinée de Dieu dans ta vie, tu as besoin de la vérité. Tu ne peux pas deviner la volonté de Dieu pour toi. Tu dois connaître la vérité pour le plan qu'il a pour ta vie. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, c'est-à-dire de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Crois-tu que le Saint-Esprit a des oreilles ? La Bible dit, il entendra. Crois-tu qu'il a une bouche ? Oui, la Bible dit, il parlera, il dira. Donc, crois-tu qu'il a une sensibilité ? Oui, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Alors, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, dit Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Quand il nous est dit qu'il nous dira tout ce qu'il aura entendu, il ne nous dira pas tout d'un coup. Mais tout ce que nous avons besoin pour le moment présent, pour prendre de bonnes décisions, même quant à notre futur, alors il nous le dira. Imagines-tu que Dieu te dise tout ce qu'il a pour toi ? Ben, certains disaient, Seigneur, reprends-moi parce que j'arriverai jamais à le faire. D'autres diraient, waouh, Seigneur, je peux ! Et qu'est-ce qu'ils feraient ? Ils commenceraient eux-mêmes à mettre en œuvre le plan de Dieu pour leur vie, et ce qui se passerait, assurément, ils gâcheraient tout. Donc Dieu ne nous dit pas tout, mais en fonction de notre maturité spirituelle, de ce que nous sommes capables de supporter, tu as remarqué que Jésus, à ses trois amis, à ses trois disciples, il disait plus qu'il n'en disait aux 70. Il les prenait à part, et à Jean, il a dit certaines choses qu'il n'a pas dit aux autres. Lis le livre de l'Apocalypse. C'est à Jean qu'il a parlé. Ce n'est pas aux autres. Hein. Donc plus on a une amitié forte avec Dieu, plus nous avons une relation vivante avec le Seigneur et plus nous entendons des détails de notre vie. Parce que Dieu ne nous dira jamais quelque chose qui nous tuerait. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Alors, ici, il est dit aussi, dans une autre version, « Ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera. » Donc, cela me dit que quand Dieu a quelque chose à te dire, il ne veut pas déclencher l'alarme de la maison, mais il veut te parler. Quelle est la manière normale de parler ? Eh bien, c'est de dire, de discuter tout simplement, comme si la personne était à côté de nous. Pourquoi nous attendons-nous à ce que Dieu hurle dans nos oreilles ? Non, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Quand Dieu veut te montrer ce qui concerne ta destinée, quand Dieu veut t'instruire, quand Dieu veut te corriger, quand Dieu veut te faire parvenir sa sagesse, qu'est-ce qu'il fait ? Dieu parle. Cet homme-là, qui était en train de regarder tout le ciment se déverser sur ce prestidigitateur, dans son cœur, Dieu était en train de lui parler. Mais ce qui se passe, c'est que comme il n'a pas une relation vivante avec Dieu, il n'a pas su discerner. Mais nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes déjà unis avec Dieu par la même vie, par Jésus-Christ, eh bien, il est tout à fait normal que nous discernions les paroles de Dieu. Maintenant, nous allons voir un autre verset. Dans Romains chapitre 8, verset 14, « Crois-tu que Dieu a des choses à te dire ?» Tu sais, beaucoup d'erreurs, beaucoup de blessures, beaucoup d'errances, beaucoup de mauvaises affaires je dirais toutes et tous, pourraient être évitées si nous acceptions de prêter attention à la manière de parler de Dieu. Mais qu'est-ce que nous voulons ? Nous ne voulons pas une relation normale avec Dieu. Nous voulons que des anges nous apparaissent. Nous voulons des visions. Nous voulons des rêves. Oui, c'est bien, mais en général, avec tout cela vient une grande responsabilité. Mais la manière de parler du Père à ses enfants est simplement la parole. Romains chapitre 8, il nous est dit au verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Des fils. Mais là, c'est normal que Dieu, le Père, conduise ses enfants. Mais il ne les conduit pas en forçant. Ma question est, comment tes parents t'ont-ils conduit dans la vie ? C'est simple. Comment t'ont-ils conduit dans la vie ? Ben, tu as passé du temps avec eux, et puis tu as compris leurs intentions. Tu sais que quand ils te parlent, c'est pour ton bien. Tu sais que quand ils te parlent, c'est pas pour t'amener dans les décors. Comment est-ce que tes parents t'ont appris la vie ? Comment le Père veut-il t'apprendre la vie, la vraie vie ? Pas celle qui est en train de passer ici-bas. Pas celle qui est en train de, dont les valeurs sont en train de changer. Non, la vraie vie, comment le Père veut-il t'éduquer ? Comment le Père veut-il te conduire ? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. On n'est pas conduit parce qu'on lit dans les journaux. On n'est pas conduit par les bonnes opportunités. Ce n'est pas parce qu'on a la possibilité de faire certaines choses qu'on le fait véritablement. Et ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui nous semblent impossibles, quand Dieu dit « fais-le », qu'on dit « ah non, 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 par tous ceux qui sont conduits, conduits, conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. » Une autre version dit « l'Esprit Saint lui-même ». Non, on va continuer la phrase que j'ai lue tout à l'heure. « Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave. L'Esprit de Dieu est en vous. » Quand vous avez accepté Jésus dans votre vie, et il nous est dit, cet esprit-là n'est pas un esprit qui va t'amener à l'esclavage. Il ne va pas t'amener à la confusion. Il ne va pas t'amener dans les chemins les plus étroits au point que tu ne sois même plus capable de, que tu n'aies plus de choix. Tu vois, quand le diable conduit quelqu'un, il lui impose une direction. Il lui impose quelque chose à faire. Et tu sais comment il le fait ? Il le fait en le harassant. Il le fait en lui répétant la même chose. Et encore, tue-toi, 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 tue-toi. Ça n'est pas conduire, c'est forcer, c'est faire du forcing. Mais l'Esprit de Dieu, lui, il conduit, c'est-à-dire, eh bien, il va te parler. Et il va dire, non, il est temps que tu changes de travail. Ou alors, oui, tiens, accepte celui-ci. Ou alors, non, attends, pour ne vends pas maintenant ce logement-là. Ça n'est pas le meilleur moment. Ne le fais pas. Dieu le fait. Et, ou bien, nous acceptons, ou alors, nous disons, non. On met quand même une annonce dans le journal. Et l'Esprit de Dieu dit, non, attends. On dit non, moi tu sais, tu comprends, il faut que d'ici tel jour, eh bien je sois sorti de là, il faut qu'arriver à telle année, eh bien j'ai acheté ci. Non. Et l'Esprit de Dieu dit, attends. Bien, on peut encore continuer. Et que se passe-t-il ? Le Saint-Esprit ne fait pas de forcing. Donc à un moment, la Bible nous dit dans Genèse que l'Esprit de Dieu ne résiste pas à toujours, ne lutte pas à toujours avec l'homme. Contrairement au diable qui veut te forcer à faire quelque chose et qui va te parler. Et il y a des gens qui ont des pensées dans leur tête parce qu'ils ont accepté de faire ce que cette pensée étrange leur disait. Tu sais que si quelqu'un se laisse aller à ses pensées étranges, ces pensées qui ne sont pas des pensées de vie, qui ne sont pas des pensées qui élèvent la dignité d'une personne, à force d'obéir, de pratiquer ses pensées, cette personne va se retrouver esclave, impossible de sortir de là. L'Esprit de Dieu conduit à la vie. Il conduit à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu va te conduire vers ton héritage. Héritage que tu ne vois pas. En quelque sorte, pour nous qui faisons partie du 21e siècle, c'est absolument marrant d'étudier ce sujet. Pourquoi ? Parce que nous avons dans notre vocabulaire le mot GPS. Moi, je trouve que c'est formidable, le GPS. Pourquoi ? Ce GPS, le Saint-Esprit est... Alors, le Saint-Esprit n'est pas une chose, on le comprend, hein, il habite en nous, mais le Saint-Esprit est comme un GPS qui dit « tourne à droite ». Il dit « non, j'ai envie d'aller à gauche ». D'ailleurs, on ne lui parle même pas. On appuie sur le champignon. Hop ! Et puis, on met le clignotant. Ou on ne le met pas. Et on dit « j'y vais ». Et le Saint-Esprit dit « non, fais marche arrière, tu t'es trempé ». Non. Et hop là ! Et on continue. Le GPS, tu as marqué qu'en général, pour que tu aies vraiment une vision précise, tu ne peux pas être... GPS, tu peux zoomer en avant, zoomer en arrière. Mais si tu zoomes trop en arrière, tu perds la direction, tout est flou. Donc, pour avoir les détails, il faut que tu zoomes en avant. Il faut que tu aies une communion précise avec le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, j'ai un GPS en moi. Maintenant, quand est-ce que tu utilises ton GPS ? Ben, quand tu ne sais pas où tu vas. Quand tu ne sais pas comment aller à ta direction. Tu dis, oh là là, il faut que je franchisse des montagnes, ou il faut que il y a une déviation. Tu es dans une terre inconnue. Tu sais, le royaume de Dieu est comme une terre inconnue pour nous. On ne sait pas tout ce qu'il y a. Mais le Saint-Esprit, lui, sait. Le Saint-Esprit va t'amener à bonne destination si tu fais attention à ce qu'il dit. Mais ne t'attends pas à ce qu'il te crie dans les oreilles ou qu'il déclenche une alarme. Ils sont conduits. Ensuite, il est dit, l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, « Abba, mon Père !» L'Esprit de Dieu, écoute bien, atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Une autre version dit, « L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. » L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit. Et le verbe témoigner, c'est témoigner avec. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, et d'ailleurs le verbe attester veut dire notamment quoi ? Garantir, assurer, confirmer. Le Saint-Esprit va confirmer pas ta tête. Tu ne peux pas faire de calcul avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas te fier aux statistiques ni aux prévisions avec le Saint-Esprit. Mais dans ton cœur, le Saint-Esprit va affirmer « oui, fais-le ». Il va affirmer « oui, dis-le ». « Oui, signe ». Ou alors, tu n'auras pas cette affirmation. Tu seras avec un doute, tu n'auras pas cette confirmation. Alors qu'est-ce que tu fais ? Quand tu n'as pas l'attestation du Saint-Esprit, quand tu n'as pas le témoignage du Saint-Esprit, où ça ? Dans ton cœur. C'est à l'intérieur que ça se passe. Pas à l'extérieur. Ça n'a rien à voir avec la logique. Ça n'a rien à voir avec cette économie. Si Dieu dit « achète cette maison », oui, mais tu comprends, le marché n'est pas bon. Achète. Non, mais je n'ai pas l'argent. Achète. Qu'est-ce que tu fais ? Tu commences par parler. Dans le nom de Jésus, j'achète ma maison. C'est comme ça que ça commence. Mais que faire tant que tu n'as pas cette attestation ? Que faire tant que tu n'as pas cette confirmation ? Que faire tant que tu sais que ton meilleur ami ne t'a pas parlé ? Qu'est-ce que tu fais ? Rien. Rien. Et c'est là le plus difficile. Parce que tant que tu ne fais rien, je te garantis que le diable va être en train d'essayer de te pousser, de te faire prendre des décisions à la hâte, de manière à ce que tu prennes ton futur entre tes mains et que tu gâches. Que tu gâches l'affaire. Toi et moi, on ne sait pas comment vivre sur cette terre. On ne sait pas où se trouvent nos provisions. Nous ne savons même pas les talents qu'il y a en chacun de nous. Non, on ne sait pas ça. Qu'est-ce que vous voulez vivre sans Dieu ? Tant que le Saint-Esprit n'a pas donné son attestation dans ton esprit, tu ne bouges pas. Non, mais je n'aime pas, c'est difficile. Tu te tais, tu restes à ta place et tu attends. On va voir tout à l'heure à quel point il est important d'avoir une parole de Dieu. Maintenant, Regardons encore dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Dis à ton voisin, je vais être conduit par l'Esprit de Dieu, comme je ne l'ai jamais été jusqu'à présent. J'ai de belles aventures dans mon futur. Et le Saint-Esprit va m'y conduire. C'est aussi simple que cela. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, il nous est dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Acceptes-tu qu'il y ait des choses que tu ne connaisses pas, que tu ne saches pas, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé des choses que ton œil n'a pas vues. Dieu a préparé pour toi des choses que ton oreille, dont ton oreille n'a même pas encore entendu parler. Et il les a préparées, elles sont prêtes. Tu réalises que tu n'as pas à te créer une vie, tu n'as pas à te créer un futur. C'est déjà fait, c'est déjà préparé. Et c'est un futur qui est bon, c'est un futur qui est glorieux parce que l'Esprit de gloire nous conduit de gloire en gloire. Mais ce futur-là, à moins que tu ne laisses le Saint-Esprit te parler et ne comprennes comment il parle, bien tu ne l'auras jamais. Passer à côté d'un futur glorieux, alors ça c'est ce que je ne voudrais pas m'entendre dire par le Père quand je vais me présenter devant lui. Il est dit, on continue, « Dieu, en revanche, nous les a révélés par l'Esprit. » Ouh, comment vas-tu entendre parler de ces choses, je dis bien parler de ces choses qui ont été préparées pour toi et il est impossible pour que ton œil les voie. Ton œil ne va pas, le Seigneur ne va pas te les révéler parce que ton œil voit. Le Seigneur ne va pas te révéler ces choses parce que ton oreille entend. Arrête de chercher la volonté de Dieu à travers tes cinq sens. Tu ne la trouveras pas. Parce que quelquefois, ça n'a pas de sens ce que Dieu nous dit pour nos cinq sens. Nos cinq sens qui ont été corrompus par la présence du péché sur cette terre ne peuvent pas discerner la volonté parfaite de Dieu. Ne cherche pas à l'extérieur la volonté de Dieu. Dites donc, ça va ? Il est dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire que le Saint-Esprit va aller, si nécessaire, sonder les profondeurs de Dieu pour les ramener dans ton propre esprit. Dans la vie, tu peux vivre sans jamais te tromper de chemin. Tu peux vivre dans la paix en te disant un chemin a été tracé. Et ce chemin, le Seigneur va me le montrer. Oui, mais quelquefois, oh, tu sais, pasteur, j'ai des difficultés à comprendre la voix de Dieu. Tu sais quoi ? Si tu gardes un cœur pur devant Dieu, si tu cherches à faire la volonté de Dieu, alors sois assuré que ce Père céleste qui est fou amoureux de toi, qui t'aime au-delà de ce que tu peux t'imaginer, ce même Père se débrouillera pour te montrer sa volonté. Mais l'Église est habituée à trouver la volonté de Dieu dans les rêves, dans les prophéties d'un prophète ou pas, dans les visions. Et il faut qu'on arrête ça. Il faut que l'on arrête de chercher la volonté de Dieu ainsi. Bien sûr qu'il parle par des rêves, bien sûr qu'il parle par des visions, bien sûr qu'il parle par les prophètes. Mais tu sais quoi ? Dans la vie de tous les jours, le Père parle. À qui ? À celui à qui il veut donner le message. Tu sais, moi en tant que pasteur, je n'ai pas besoin d'utiliser le micro le dimanche matin pour dire à une personne ce que j'ai à lui dire. Qu'est-ce que je veux faire ? Quand je veux parler à une personne, j'appelle Christelle, je lui dis « Peux-tu me fixer un rendez-vous avec cette personne ?» et je vais lui dire ce que j'ai à dire, si j'ai quelque chose à dire, mais je ne vais pas utiliser le micro pour parler à une personne. Non, je ne fais pas cela. D'abord, personne ne devrait le faire, c'est abuser. Abuser de ce privilège-là, de donner la parole de Dieu en public. De la même manière, eh bien, si je dois m'adresser à quelqu'un de mon église, eh bien, je ne vais pas passer par mille et une personnes. Si c'est important, je vais le dire directement. Et le Père, crois-tu qu'il a besoin de te brouiller les pistes en disant, c'est quoi, j'ai mangé trop de pizza ou j'ai entendu la voix de Dieu? J'ai eu un rêve là, c'est quoi là? Ou alors qu'il aille vers une personne pour te dire à toi ce que tu devrais faire. Quand on n'est pas habitué à entendre la voix de Dieu, le Seigneur peut utiliser des aînés en Christ pour nous guider. Mais on ne devrait jamais en rester là. On ne devrait pas en rester là. Chacun de nous devrait entendre la voix du Père. Comment ? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu a déjà envoyé quelqu'un, le Saint-Esprit. Ce n'est pas la peine que tu aies 15 personnes pour te dire ce que tu dois faire. Ça a l'air d'être une pensée nouvelle pour certains, je ne sais pas. Ok, alors, ici dans cette version, ce que nul homme n'a jamais entendu, n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé. C'est-à-dire qu'il y a des pensées que Dieu a en lui, on n'a jamais pu penser à ces choses-là. Il y a des idées nouvelles qui sont dans le cœur de Dieu. Et si tu marches avec lui, il te les donnera. Je ne sais pas, mais moi j'ai horreur de la routine. Quelquefois, bon, c'est obligé, on le fait, mais j'ai horreur que les choses ne changent pas. Ça c'est un truc, alors là, franchement, c'est le plus... Alors carrément, là c'est déprimant pour moi. J'ai besoin sans cesse d'aller de l'avant, de progresser, d'être comme vous savez, les vagues de la mer qui ne sont jamais à la même place. Ça ne veut pas dire qu'on est instable, mais ça veut dire que l'on continue à avancer en Dieu. Dieu a des idées nouvelles pour toi, que tes cinq sens ne peuvent pas percevoir et que tes cinq sens, avec lesquels même il est possible que tes cinq sens ne soient pas d'accord. Mais qu'est-ce que l'on a entendu ? Il est dit, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret, donc des choses qu'il a préparées pour nous. Il a révélé ce secret par le Saint-Esprit. Dans le cas d'un homme, seul son esprit connaît les pensées qui sont en lui. Tu comprends que tout se passe dans ton esprit, au plus profond de ton être. Ça ne se passe pas dans ta tête, ça se passe dans ton cœur. Alors, quelle partie de ton être entend Dieu ? Certains, ils ont l'air de se dire, ok, pasteur, repose ta question là, parce que... Non, je répète, quelle partie de ton être entend Dieu ? Ton esprit. Ce qui veut dire que tu as des oreilles intérieures. Quand Dieu te parle, il ne te parle pas ici, il ne te parle pas ici, ni ici, ni ici. Il te parle ici. Et quand Dieu te conduit, si tu sais comment il conduit, tu vas accepter d'être conduit par ton esprit. On a vu un des mots, une des significations du verbe conduire, c'est conduire comme on conduit un animal. On attache une corde à son cou et on ne tire pas dessus. Tu as déjà vu quelqu'un qui tire sur sa vache comme ça? Non, tu le prends et tu le conduis. Tu dis, si la vache, elle résiste trop, c'est l'abattoir. Ça y est, la SPA va me convoquer maintenant. Non, mais qu'est-ce qui se passe ? Dieu a une corde d'amour autour de toi. Et le Seigneur va tout simplement, c'est-à-dire que ton cœur va tendre. Je dis, ton cœur va tendre vers quelque chose. Les fils de Dieu sont conduits et Dieu révèle ce qui nous concerne à notre esprit. Le Saint-Esprit parle à notre esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas à l'esprit de quelqu'un pour autre, pour que tu saches. Il peut, mais encore une fois, quand on grandit avec Dieu, ça n'est pas comme cela que ça se passe. Luc chapitre 1, vous allez bien ? On peut continuer là ou... Moi, tu sais quoi ? J'ai envie de voir où tu vas aller et ce que tu vas devenir en étant conduit par l'Esprit de Dieu. Alors ça, c'est mon rêve. En tant que pasteur, j'ai hâte de voir ça en chacun de vous. Je me dis, waouh, jusqu'où tu peux les amener, Seigneur? Mais la clé, être conduit par l'Esprit de Dieu. Vous avez trouvé dans Luc, chapitre 1, Luc, verset 1, alors attendez, verset 1 à 4. Alors, c'est pourquoi, à mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début, et il m'a semblé bon, illustre Théophile, d'en écrire pour toi le récit suivant. Une autre version, la Tob, dit « Il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile. » Alors, Luc, qui est Luc? Luc est un médecin. Et il a une manière de voir, il a un esprit scientifique, il a une autre manière de voir que Marc ou Jean ou Matthieu. Mais vous réalisez ce que Luc est en train de dire ici? Il est en train de lui dire, il y a quelque chose qui m'a paru bon. Et paru bon, c'est paru bon. Dans n'importe quelle version, c'est paru bon. Il m'a Ah ouais, là c'est ok. Et il a commencé à le faire et l'inspiration est venue. Et tu sais quoi, avec ces « il m'a paru bon », c'est-à-dire le Saint-Esprit qui atteste à l'esprit de Luc, tu réalises, il a écrit un évangile. Aujourd'hui, cet évangile continue à impacter des générations. Et puis, ça n'est pas tout, il s'est pas arrêté avec ce premier évangile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué avec les livres des actes, uniquement avec « il m'a paru bon ». Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où on peut aller avec Dieu. Avec le fait que Dieu place dans notre esprit une attestation. Pourquoi je veux dire que le Saint-Esprit qui a attesté au cœur de Luc, on va le voir tout à l'heure dans un autre verset. Il m'a paru bon. Ou alors ça pourrait être, ça ne semble pas bon. Yeah. Là, on essaie, nos jambes essaient d'aller dans cette direction-là, nos yeux sont fixés vers cette direction-là, et le Saint-Esprit est en train de dire, va vers là, va pas vers là. Mais on a tous expérimenté ce genre de situation, non? Où on veut aller dans cette direction, on dit « je vais ». Le Saint-Esprit est en train de nous tirer, il dit « non, va pas là, j'y vais, va pas là ». Tous, on l'a vécu. Et parfois, on s'est mordu les doigts. Tu sais quoi? Il y a des erreurs que l'on fait et qui, je veux dire, n'ont pas un grand impact. Je veux dire, si j'achète un steak haché au lieu d'un beefsteak, bon... Il y a des erreurs qui, elles, vont nous coûter beaucoup. Il y a une chose que j'ai apprise avec Dieu, c'est que quand ce sont des erreurs qui affectent notre destinée, alors le Seigneur, dans sa grande grâce, va nous ramener au carrefour des choix que nous avions à faire. C'est-à-dire... Par exemple, tu te rends à Marseille et on va manger une bonne bouillabaisse. Ah, on va à Marseille. Et puis, au lieu de sortir à Marseille, tu as première sortie pour Marseille, deuxième sortie pour Marseille, et puis toi, tu es en train de parler, tu es en train de rire et tout ça. Paf, tu loupes. Et tu prends tu arrives à je sais pas moi, à Lyon où? Où ça? À Aix. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu crois que le Seigneur va te dire « Bon, ben, c'est pas grave, va manger des nougats à Montélimar. » Ou va manger des saucisses briochées à Lyon. « C'est pas grave. » Non, si c'est quelque chose qui risque d'affecter ta destinée, le Seigneur va dire stop maintenant, fais marche arrière, reviens à l'endroit où tu as eu un choix à faire. C'est-à-dire que cette opportunité de faire le bon choix va se représenter à nous, mais en général, c'est avec un papier cadeau différent. Mais le Seigneur nous ramènera à ce point, à ce carrefour où on a un choix à faire. Pourquoi ? Il va te ramener parce qu'il veut te voir dans la victoire. Et la pire des choses que l'on puisse faire, c'est regimber, dire « Et non, et moi je vais là, et je vais là. » Et dans notre cœur, apprenons à obéir à l'Esprit de Dieu qui parle à notre esprit. C'est-à-dire à croire. Tu dis « Oui, mais si jamais je fais une erreur, si tu fais une erreur sincèrement, tu sais ce qui va se passer ?» Guillotine, non je plaisante. Ce qui va se passer, c'est que le Seigneur, eh bien, s'arrangera pour te garder et pour te protéger. Maintenant, si nous commettons une erreur et nous sommes pleinement conscients de ce que nous sommes en train de faire, le Seigneur va nous laisser subir les conséquences de notre choix. Ça n'est pas un jugement, ça n'est pas une malédiction. Une malédiction, c'est complètement différent. Mais ce sont les conséquences de notre choix. Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils ont subi les conséquences de leur choix. Et en plus de cela, il y a eu un jugement, c'est-à-dire plus jamais tu ne pourras faire ci. Dieu veut te conduire vers la gloire, vers la victoire, vers le bien-être. Il veut te donner les désirs de ton cœur, c'est-à-dire ceux qu'il a placés dans ton cœur. Non mais attendez, mais c'est extraordinaire ça. Qui a envie de faire du surplace ? Personne ! Mais comment est-ce que le Seigneur va te, quoi, parler ? Parler comme quelqu'un qui est, à qui il n'a pas pété un câble. Parler normalement. Dieu te parle normalement. Qui a envie d'entendre la voix de Dieu ? Waouh, ah ouais, moi aussi. Waouh, quand j'entends ça, je dis, Seigneur, rends-moi plus sensible à ta voix. Alors donc, on a vu ici que quand même, regardez maintenant, donc, l'évangile de Luc, je peux continuer ou ? Non, parce que j'ai encore des bonnes choses. Donc, restez avec moi, là. On est à l'église, là, on prêche la parole. D'accord. Luc a écrit l'évangile de Luc et le livre des actes uniquement parce qu'il a accepté que le Saint-Esprit le conduise vers cela. Il lui a paru bon. Dites-moi là, ça ne nous donne pas, ça ne met pas le doigt sur le fait qu'on doit protéger notre cœur. C'est ce que la Bible dit, protège ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de la vie. Protège ton cœur, protège ton cœur. Bon. Un autre, Luc chapitre 2. Alors, pour vous donner le contexte, Jésus est né, et puis selon la loi, parce qu'il accomplit la loi, il va être circoncis le huitième jour, et pour cela, eh bien, ses parents vont l'amener au temple. Verset 25, Luc chapitre 2. « Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit. » Il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Alors, une chose, l'Esprit de Dieu avait fouiller dans les, sonder les profondeurs de Dieu et de tout ce qu'il y a en Dieu avait mis à l'esprit de Siméon qu'il verrait le Messie avant de repartir vers le Père. Et cet homme-là était tellement habitué à être sensible à la voix de Dieu. Tu sais, la Bible ne dit pas pour rien, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherche d'abord. Et quand quelqu'un est habitué à mettre Dieu en premier dans tous les domaines de sa vie, alors quand Dieu parle, c'est tellement plus facile d'entendre. Et la Bible nous dit qu'ensuite, guidé par le même esprit, il s'est trouvé au temple au même moment. Tu sais, une circoncision, elle ne dure pas 40 jours. Hein. La cérémonie est relativement courte. Réalise que Siméon ne connaissait pas Joseph. Il ne connaissait pas Marie. Et il est arrivé au même moment et l'Esprit lui a dit, c'est lui, celui que tu attends, le Sauveur, c'est lui. Waouh, il y a des rendez-vous que Dieu a pour toi et tu n'y seras dans ces moèdes, dans ces rendez-vous divins, que si tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu. Imagine cet homme âgé qui aime Dieu, qui attend le Messie. Et tout d'un coup, il voit cet enfant et l'Esprit de Dieu atteste à son esprit, c'est lui. Tu sais, pour choisir une épouse ou un époux, tu n'as pas besoin de voir qu'il a de beaux yeux. C'est mieux s'il les a, mais... Dans ton esprit, Dieu parle. Il ne crie pas, il parle. Et non seulement on voit que cet homme-là est arrivé, Siméon est arrivé au bon moment, mais peut-être qu'on peut se poser la question, où était-il 2 heures avant ? On est au Moyen-Orient. Siméon est peut-être en train de manger du houmous avec ses amis. Il est peut-être assis à la terrasse d'un café en train de manger des falafels, boire un bon thé à la menthe. Il est en train de discuter avec ses amis. Peut-être que c'est l'heure de la pause, j'en sais rien, je n'ai pas vérifié. Et tout d'un coup, il sent dans son cœur le Saint-Esprit qui est en train de lui dire, allez, lève-toi, retourne au temple. Et cette pensée s'impose à lui et s'impose à lui doucement. Et le Saint-Esprit est en train de lui parler en disant, viens, dépêche-toi, il est temps que tu y ailles. Et au même moment, quelqu'un dit, et au même moment, tu veux savoir comment trouver un travail? Et au même moment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, ce n'est pas tout, mais le verset 36-38 nous dit, qui est arrivé à ce moment-là? Anne, la prophétesse, qui attendait, elle aussi, le Seigneur, maintenant dans Actes chapitre 15. Mais tu réalises, comment Dieu veut-il t'amener vers ta destinée? En te conduisant par l'Esprit de Dieu. À Ève, tu rappelles le pépin qui lui est arrivé? Parce que la Bible nous dit, elle a vu que le fruit était beau. Ne te fie pas. Tu sais, ce que tes yeux voient font partie d'une dimension qui est extrêmement limitée et qui est corrompue. Vous avez trouvé dans Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Alors, ici, pour vous donner un petit peu le contexte, Verset 22. Il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Et ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ici, nous avons l'exemple du... Il est dit dans d'autres versions, verset 25, « En effet, le Saint-Esprit... Et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer aucun fardeau en dehors des devoirs suivants qui sont indispensables. En effet, le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé. » Alors, verset 25, il est dit, « Il nous a paru bon. » Verset 28, « En effet, il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous-mêmes. » Ici, il y a des gens qui sont en train d'apporter des enseignements qui mettent un joug sur les croyants. Et quand les apôtres entendent cette nouvelle-là, ils se consultent et ils disent, « Eh bien, voilà les enseignements que vous allez suivre. » Mais vous réalisez qu'ils ont défini la doctrine, Je veux dire, ils ne se sont pas consultés pour dire, est-ce qu'on achète ce bâtiment d'église ou est-ce qu'on n'achète pas? Est-ce qu'on achète un van pour l'église ou est-ce qu'on n'achète pas? Ils étaient en train de définir la doctrine de l'église. Et comment ont-ils dit, oui, nous gardons cela et non, nous rejetons cela? Eh bien, ils ont consulté le Saint-Esprit et ils ont fini par dire, il nous a paru bon à l'Esprit et à nous-mêmes. Il nous a semblé bon à l'Esprit et à nous-mêmes. Tu veux savoir comment Luc a écrit l'Évangile? Tu veux savoir comment des gens aujourd'hui écrivent des livres? Tu veux savoir comment des gens créent de nouveaux chants? Tu veux savoir comment l'Église avance, locale et universelle? Il nous a paru bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit. L'Esprit de Dieu rend témoignage quand il te paraît bon à toi et au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit et à toi, alors tu peux dire, la décision est prise, voilà la direction que nous prenons. C'est-à-dire que tant que le Saint-Esprit, encore une fois, n'a pas attesté à ton esprit que tu dois faire ceci ou arrêter de faire cela, eh bien tu continues à faire ce que tu faisais, tu ne prends pas de nouvelle direction. Mais, quelqu'un dit mais, quand le Saint-Esprit a attesté à ton esprit et que tu as décidé que oui, tu allais dans cette direction, alors la clé, tu ne remets plus en question le choix de Dieu. Et le problème, c'est que les gens reçoivent dans leur cœur le témoignage du Saint-Esprit, l'attestation, l'assurance, la garantie, c'est certifié, le Saint-Esprit dit oui, oui, c'est dans cette direction que nous allons, et les circonstances ne sont pas favorables, et on dit, non, je pense que je vais faire autre chose. Il n'y a rien de plus terrible qu'une fois qu'on a connu la volonté de Dieu, que de la remettre en question uniquement parce qu'on entend autre chose ou on voit autre chose. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer dans les Écritures. Une fois qu'il t'a paru bon, qu'il vous a paru bon au Saint-Esprit et à toi, tu vas dans cette direction. On ne remet pas. Quand on remet sans cesse en question la volonté de Dieu, on ne fait plus du surplace. On recule. Tout le monde a envie d'avancer dans la vie. Alors, je vais vous montrer. On va regarder dans Actes chapitre 15. Regardez le verset 37. Barnabas, alors là, si vous voulez, ils ont donné la parole de Dieu et on peut dire ils sont sur le point de partir. Sans doute qu'ils sont en train de régler la facture d'hôtel et de dire, voilà, je vous dois combien pour les chambres, et ils sont sur le point de partir. Verset 37, Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Le verset d'après nous dit, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ici, quand on lit que Barnabas voulait amener Jean, le verbe c'était délibérer avec soi-même. C'est-à-dire que Barnabas n'a pas consulté l'Esprit de Dieu pour savoir s'il devait amener quelqu'un avec lui, exactement comme Abraham. Abraham, on lui a dit, pars. Mais n'amène que telle personne. Non, Abraham a ajouté, il a amené son neveu Lot, et on sait ce que ça a amené. Ça a amené beaucoup de problèmes. Mais ici, Barnabas a la bonne idée, dit, on amène Paul. Paul, qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit, il a jugé, il a pesé. Et il a dit, mais attends, il nous a lâchés en Pamphylie, il n'y a aucune raison qu'il vienne avec nous. Et la Bible nous dit qu'il a pris qui avec lui? Qu'est-ce qui est marqué? Il a pris Silas avec lui. Il a dit non, je ne veux pas de gens surnommés Marc, donc moi je refuse. Barnabas, mais vous savez qu'il est dit qu'ils se sont disputés, mais en grec c'est ils en sont venus aux mains. Vous imaginez, Paul était un homme qui était très petit, hein, et je pense qu'il a dû avoir la castagne quelque part. J'amène Marc, non, paf, j'amène pas Marc, tac, je te mets. Oh là là, quelle horreur. Le témoignage, là, on n'en parle même pas. Bref, Barnabas, lui, est resté sur ses positions. Il a dit, puisque c'est comme ça, eh bien, moi, je vais suivre mon chemin. Résultat, on n'en entend plus parler après dans la Bible. Mais Paul a dit, non, moi, je vais aller avec ce que j'ai à cœur. Et il a amené avec lui Silas. Regardez le verset 30. Silas, d'où il sortait celui-là? Qu'est-ce qu'il faisait là? Donc, il donne la doctrine, verset 30. « Eux donc, pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retournés vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas... » Qu'est-ce que vous avez ensuite dans votre Bible ? Trouva bon de rester. C'est-à-dire que des frères sont partis et Silas, normalement, aurait dû les accompagner. Et il a dit, vous savez quoi ? Non, je reste. Résultat, il est celui qui a continué à voyager avec l'apôtre Paul. Imagine Abraham. Abraham, Dieu lui dit, pars. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble sa famille, il rassemble ses troupeaux, il rassemble ses serviteurs, il dit, hop là, exit, on part. Et les voisins qui disent, et alors, où vas-tu? J'en sais rien. Silas, pourquoi restes-tu là? Je sais pas. Tu sais que tu n'as pas besoin d'avoir les réponses à tout ce que tu as dans ton esprit. Mais très souvent, on veut une bonne raison de faire ce que l'on fait. Et notre bonne raison nous amène à Tataouine ou dans les décors. Non, Silas, pourquoi restes-tu? Pourquoi ne pars-tu pas avec les autres? Je ne sais pas. Pourquoi fais-tu cette école? Je ne sais pas. Pourquoi vends-tu cette maison? Je ne sais pas. Pourquoi achètes-tu cet appartement? Je ne sais pas. Pourquoi veux-tu changer de voiture? J'en sais rien. Pourquoi vas-tu là? J'en sais rien. Pourquoi choisis-tu ce métier? Je ne sais pas. Mais ça paraît bon. Ça paraît bon. Le Saint-Esprit et moi avons décidé. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. C'est-à-dire ceux qui portent les mêmes caractéristiques que le Père. Tu es un fils de Dieu, alors Dieu veut te conduire. Et quand tu n'as pas de réponse, eh bien c'est simple, c'est OK de dire « je ne sais pas ». Quand nous avons acheté le trafic à l'église, quand nous étions à Menton, le Seigneur dit, achète ce trafic maintenant. Et franchement, je ne savais pas, ça ne nous servait à rien au moment où le Seigneur nous a dit de le faire. Mais plus tard, quand le Seigneur a dit, eh bien, allez à Nice, pourquoi tu vas à Nice? Je ne sais pas pourquoi l'église va à Nice. Mais tu sais quoi? J'ai appris à obéir. Maintenant, regardez, je peux vous montrer encore... des versets là. Alors on n'est pas conduit par la peur, on n'est pas conduit par l'argent, nous ne sommes pas conduits par les opportunités, nous ne sommes pas conduits par les yeux de biche, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Mais de même, Actes chapitre 16, je vous le lis, verset 6, il dit « Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans les provinces d'Asie, de sorte qu'ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. » Quand le Saint-Esprit t'empêche, qu'est-ce qu'il fait? Non, le Saint-Esprit n'a pas besoin de créer un accident sur la route pour t'empêcher d'aller là où tu veux. Ce n'est pas Dieu qui fait des choses comme cela. Donc comment est-ce que le Saint-Esprit va te conduire? Eh bien, c'est très simple, ça ne paraît pas bon. Ah, non, il y a un truc là, je ne sais pas, mais il y a un truc là, non. Ah non, ça ne paraît pas bon, ça ne me semble pas bon. Je peux dire, la proposition semble bien, si j'aligne les chiffres, si je regarde le lieu où ça va se construire, oui, mais ça ne semble pas bon. Ou alors, ça semble bon. Mais le Saint-Esprit, quand il sait qu'on va se tromper, il nous en empêche. Encore une fois, le Saint-Esprit ne va pas crier dans tes oreilles. Il n'a pas besoin de te donner une vision et que tu vois une catastrophe. Il n'a pas besoin de te donner un rêve. Mais il veut te parler et il veut te conduire par « il semble bon » ou « il ne semble pas bon ». obéis. Tu dis, si je me trompe, encore une fois, tes intentions sont bonnes, le Saint-Esprit te récupérera. Moi, je vais vous dire, je préfère prendre des risques, même me tromper en croyant servir Dieu, plutôt que de ne pas prendre de décision, de faire du surplace, voire de reculer. L'Église doit avoir cette audace de dire, tu sais Seigneur, si je coule, mais je vais mettre mes pieds dans l'eau, je vais sortir de la barque. Seigneur, tu me repêcheras. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu bannit la crainte. Je vais vous montrer un autre événement qui s'est passé. Alors, le Saint-Esprit les empêcha, au verset 7, il est dit aussi, « Quand ils arrivèrent de la Mysie, ils eurent l'intention d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Dieu ne leur parut pas, ne leur permit pas. » Je vous avais raconté cela, moi il m'est arrivé de dire, tiens, je vais, par exemple, là, quand je suis allée aux États-Unis, normalement, je rends visite à différentes églises, parce que ce sont des églises qui sont partenaires avec nous, et qu'il est bon qu'ils nous voient. Mais cette fois-ci, il ne me paraissait pas bon de le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis restée dans la région de Dallas. C'est la seule chose que j'avais assisté à cette conférence. S'il y a une église dans les environs, bon, c'est bon, mais aller dans différentes, ça ne me paraissait pas bon. Même chose, quand il s'est agi de décider le voyage en Israël pour les vacances, là, ça c'est quelque chose qui a été envisagé, depuis pas mal de temps. Mais l'achat des billets, c'était fin novembre, quelque chose comme ça. Il ne me paraissait pas bon du tout d'y aller en avril. Fin mars, avril, je voulais, parce que les jours sont meilleurs, etc. Ça ne me paraissait pas bon. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends les dates pour février. Et là, ça semble bon. Bon, quelles sont les décisions que tu as à prendre maintenant ? Je ne te parle pas d'évaluer ces décisions en fonction de ce que tu vois ou entends dans le naturel, mais dans ton cœur, qu'est-ce que tu as ? Actes chapitre 21, ça c'est intéressant. Actes chapitre 21, il nous est dit au verset 1, « Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et nous partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. » Verset 4, « Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Verset 5, « Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent vers chez eux. » Achevant notre navigation, nous arrivâmes de Tyr à Ptolémaïs, pourtant c'est quand même pas, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté de Dieu se fasse. Et ils sont montés. Alors ici, il y a apparemment des contradictions. C'est-à-dire que Paul rencontre des chrétiens, et les chrétiens sont avertis par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit leur a parlé. Et le Saint-Esprit leur a dit, Paul va à Jérusalem, mais à Jérusalem, il va être lié et il va être mis en prison. Et qu'est-ce qu'ils disent à Paul ? Ce qui semble logique, ne monte pas à Jérusalem, Paul. Tu peux prêcher ailleurs. Si tu vas à Jérusalem, eh bien, des problèmes t'attendent et ton ministère s'est terminé. Il rencontre le prophète Agabus et le prophète Agabus dit exactement la même chose que ce que l'Esprit a dit à ses croyants, c'est-à-dire tu vas à Jérusalem et tu vas être lié. Des problèmes vont commencer pour toi. Mais il y a une chose que le prophète ne fait pas, c'est qu'il n'a pas mis d'interprétation dessus. Vous avez remarqué, il n'a pas dit à Paul, en fonction de ce que j'entends, va à Jérusalem, ou en fonction de ce que j'entends, ne va pas à Jérusalem. Vous savez, là où nous avons de grandes difficultés, c'est quand nous ajoutons une interprétation aux paroles que nous recevons. C'est-à-dire, les croyants ont bien entendu, l'Esprit leur a parlé, leur a dit, Paul va au-devant de problèmes. Mais l'Esprit n'a pas dit, n'y va pas. Agabus lui dit la même chose, Paul, il y a de grandes difficultés, j'ai une question à te poser. Est-il possible que le Saint-Esprit t'avertisse de difficultés là où il te demande d'aller ? Hein ? Ah non, pasteur, ah non, 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 moi je vais de gloire en gloire. Hein. Si le Saint-Esprit m'envoie quelque part, alors dans ces cas-là, tout va bien. Pétale de rose sur le trottoir, on me reçoit avec des fleurs en ville, on me remet un chèque de 50 000 euros. Non, non, tout va bien pour moi. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Le Saint-Esprit. Alors, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là ? D'un côté, des croyants qui aiment Paul, qui ne veulent surtout pas qu'il ait de problème, qui veulent que son ministère continue, et ils disent, tu sais Paul, et ne va pas à Jérusalem parce que le Saint-Esprit nous a dit que des problèmes t'attendent. De l'autre, un prophète qui dit, des problèmes t'attendent. Il finit sa phrase, point, et il ne dit rien. Comment Paul a-t-il su s'il devait obéir aux croyants ou obéir aux prophètes ? Un prophète, plusieurs croyants. Regardez avec moi, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Actes chapitre 20. L'apôtre Paul a fait venir à lui des anciens. Il y avait les pasteurs qui étaient là. Et il leur a donné tout le conseil de Dieu. Il est sur le point de les quitter. Et il leur donne une dernière recommandation, verset 28, il dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. » Comment savait-il ça ? Il n'est pas dit qu'il a eu des visions ? Il n'a pas eu des rêves. Il y a cette connaissance qui est venue quand le Saint-Esprit lui a parlé de ces choses. Tu vois, où le Saint-Esprit te parle sur des choses qui sont nouvelles, ou alors si tu te trouves devant la possibilité de signer un contrat, le Saint-Esprit atteste, confirme ou infirme. Tu vois la différence ? Là, l'apôtre Paul, naturellement, il ne sait pas ce qui va se passer dans cette église une fois qu'il sera parti. Mais le Saint-Esprit l'a amené dans le futur de cette église à travers ce qu'il lui a dit dans son esprit. C'était une chose nouvelle. Par exemple, tu te trouves, tu te promènes et tout d'un coup, je vais vous donner un exemple, tiens. Ma sœur va acheter des croquettes pour pour le petit chien. Et puis, elle se rend donc dans cette grande surface, animalerie. Et elle se dit, tiens, je vais voir les petits chiens. Quand elle arrive devant la vitrine où il y a les chiots, il lui a paru bon. Pourquoi ? Le Saint-Esprit a confirmé à son esprit quelque chose, une situation dans laquelle elle était déjà. Mais ici, Paul n'a aucun moyen de savoir quel va être le futur de l'Église. Le Saint-Esprit lui parle. Tu comprends? Quelquefois, le Saint-Esprit va carrément te parler dans ton esprit. Il parle comme il parle à son meilleur ami. Ou le Saint-Esprit va attester, en général, c'est quand tu es déjà dans la situation. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Maintenant, écoutez ça. Et l'apôtre Paul dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignera des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Juste mon avis, hein. C'est pas ainsi dit le Seigneur, mais je crois qu'il parle de l'Église catholique ici. Il y a des gens qui aiment le Seigneur, qui sont nés de nouveau. Verset 31, « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Mais attendez, je suis allée, c'est pas là que je voulais aller, attendez. Non, je suis allée trop loin. Verset 20. « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Donc si vous voulez, avant que les croyants, qu'est-ce qu'il dit? L'apôtre Paul est en train de dire, je sais que je dois aller à Jérusalem. Et quand je vais aller à Jérusalem, je sais qu'il y a des problèmes qui m'attendent. Je sais que j'ai ça ne va pas être facile. Mais il dit, j'y vais, lié par l'Esprit, c'est lui qui m'y amène. Et puis, il rencontre des croyants, et les croyants lui disent, eh bien, la même chose, à Jérusalem, tu vas avoir des problèmes. La seule différence, c'est que là, ils lui disent, n'y va pas. L'Esprit lui a déjà dit, va. Et puis, il y a le prophète Agabus qui lui dit, attention, à Jérusalem, tu vas avoir des problèmes. Mais là, la différence, c'est que le prophète ne donne pas d'interprétation. L'apôtre Paul savait déjà, il avait déjà averti, dit de ville en ville, on n'arrête pas de me dire la même chose. Il est possible de savoir que quelqu'un va avoir des problèmes, mais gardons-nous de lui dire ce qu'il doit faire. Vous ne croyez pas que trop souvent, on donne trop de directives aux gens? Je vais vous donner un conseil. Quand quelqu'un vous demande des conseils sur des choix qu'il a à faire, en général, évitons de lui dire ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'on fait? On pointe vers la parole et on dit « voilà ce que dit Dieu ». Ou alors on lui dit « eh bien, voici les principes de la parole de Dieu, maintenant choisis ». Quand on a une voix dans la vie de la personne et on sait qu'on l'a, on peut lui donner un conseil et dire, écoute, est-ce que tu as pensé à ci ou à ça? Mais en général, si on n'a pas cette voix-là, on ne le dit pas. Vous savez, en tant que pasteur, je ne dis pas tout ce que je sais. Je ne sais pas tout, je pense que ça c'est assez rassurant, et j'accepte de ne pas savoir tout. Une chose que je sais, c'est que je demande à Dieu de savoir ce que je dois savoir. Mais ça n'est pas parce que je sais que je dis ce que je sais. Et quand on sait quelque chose, je dirais à 80% des cas, c'est pour qu'on prie pour ça, pas pour qu'on aille le dire. Heureusement que l'apôtre Paul savait qu'il allait à Jérusalem et qu'il savait déjà que des tribulations l'attendaient. Mais s'ils s'étaient laissés avoir par les croyants qui ont ajouté à ce que le Saint-Esprit disait, que serions-nous aujourd'hui? Donc, ce que je veux vous encourager à faire, c'est à prêter attention à ce que le Saint-Esprit a un mot à dire sur tout ce que vous voulez faire, sur tout ce que vous projetez, et sur tout ce que vous voulez dire. Le Saint-Esprit a son mot à dire. Mais c'est quelqu'un qui ne marche que par invitation, c'est-à-dire qu'il ne fera pas du forcing. Tu dis, oui, mais si ce qu'il me dit, ça ne va pas me faire plaisir, j'ai pas envie de le faire, alors au moment où il le dira, il te donnera la grâce de pouvoir le faire. Mais il est indispensable. Il y a des accidents qui ont été évités parce que les gens ont choisi de suivre le Saint-Esprit. Il y a des catastrophes qui ont été évitées. Il y a des entreprises qui ont remonté grâce à ce que le Saint-Esprit disait au PDG. Tu sais, la Bible nous dit que nous vivons dans une génération, dans des moments qui sont périlleux. Périlleux, ça veut dire les plus grands dangers. Tu sais, tous les terroristes ne sont pas en Afghanistan, hein, ou dans la bande de Gaza. Ils n'y sont pas tous. Nous voulons être au bon moment, à la bonne heure, avec les personnes que le Seigneur nous a préparées. Mais c'est glorieux. Nous ne dépendons pas de nos cinq sens. Dis à ton voisin, ben, heureusement. Parce que si ta vue baisse, parce que si ton oreille devenait sourde, il faudrait changer de méthode là. Hein. Répète après moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Il m'aide à discerner ce qui paraît bon. Quand le Saint-Esprit et moi avons décidé que ça paraissait bon, je ne change plus d'avis. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit de ce que je dois faire. Le Saint-Esprit atteste. Le Saint-Esprit confirme ou le Saint-Esprit empêche. J'ai une destinée glorieuse devant moi et le Saint-Esprit va m'y conduire. Gloire à Dieu.